Bonsoir mes frères et sœurs, quelle bénédiction de se retrouver sous le regard de Dieu. Je voudrais juste lire une parole d'une prière, une prière qui a été bénie. Dans le psaume 51, il a été retranscrit la prière d'un homme qui avait vraiment péché. Il avait joué la comédie et quand il a été confronté à son péché, il a prié. Dans cette prière, au psaume 51, il y a un verset que j'aimerais lire, juste une partie de cette prière, qui indique certainement comment un homme peut être exaucé. Psaume 51, verset 12, c'est le roi David, il a beaucoup péché, et il en a beaucoup souffert. Et il a été interpellé un an après, et il revient à Dieu. Il revient à Dieu et Dieu va le restaurer. Psaume 51, c'est le verset 12, juste, qui nous sert d'introduction à ce moment de partage. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il se pourrait que ce soir, cette prière, si vous la vivez, pas vous la faites, parce que faire une prière récitée, ça ne tient pas. Mais si vous viviez cette prière, « Renouvelle en moi un esprit bien disposé », il se pourrait que cette démarche qu'on vient de chanter, eh bien, soit expérimenté dans vos vies. Je voudrais lire avec vous cette histoire que nous avons évoquée en partie dimanche pendant le culte, c'est dans l'évangile de 8, au chapitre 8, une femme qui a besoin de la faveur de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui dit, mais moi j'ai besoin de ta faveur. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a besoin de la faveur de Dieu qu'on va la recevoir. C'est un petit peu plus sérieux que ça. Notre participation est très sérieuse. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, au verset 43, il est rapporté donc le témoignage de cette femme qui souffrait depuis 12 ans. C'est long, 12 ans, non? On peut souffrir pendant longtemps, très longtemps, pendant une semaine, et pendant des mois, des années. Et cette histoire est relatée, c'est très bien. Luc 8, 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a... » Guéri ou sauvé? Oui, les deux. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Et nous voyons une femme au bénéfice de cette bénédiction. Mais vous savez, mes frères et sœurs, si on est là ce soir, ça devrait être la même chose. Je suis surpris de voir combien parfois même Jésus... Regardez à la piscine de Bethesda. Jésus va à la piscine de Bethesda. Il est dit qu'il y avait une foule d'estropiés, de boiteux, d'aveugles, de paralytiques qui résument la société d'aujourd'hui. Une foule d'hommes et de femmes esquintés. Jésus va vers un homme qui est malade depuis, pas 12 ans, 38 ans. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri ? Question, si elle venait pas du Seigneur, pourrait presque être incorrecte, presque irrespectueuse. Vous voyez, si quelqu'un dit « tu veux être guéri » à quelqu'un qui est malade, on pourrait dire quand même « il se moque ou quoi ?» Mais quand ça sort de la bouche de Jésus, ça prouve qu'on peut ne pas vouloir être guéri. Et Jésus, il s'est tombé, il dit « bien sûr, mais quand un ange, il y avait une histoire, c'était un petit peu compliqué. De temps en temps, à cette piscine, un ange du ciel descendait, il remuait l'eau, et le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. » Ça nous dépasse un peu. La maison Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Mais ça nous prouve que Dieu est souverain et qu'il guérit. Et cet homme va être guéri par une parole de Dieu. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Il va obéir. Parce qu'il faut obéir pour être béni. La foi, c'est toujours manifestée par une obéissance. Toujours, toujours. Même quand Jésus multiplie les pains, il demande qu'on lui apporte quelque chose. On lui apporte 5 pains et 2 poissons. C'est dérisoire quant au tenu de ce qui va se passer. Mais il faut le faire. Quand Jésus ressuscite Lazare, qu'est-ce qu'il demande ? Ôtez la pierre. Est-ce que Jésus, en faisant sortir Lazare du tombeau, il ne pouvait pas rouler la pierre ? Est-ce qu'il pouvait la rouler, la pierre ? Mais il demande notre participation. Et souvent, le Seigneur, il a été là, et nous les premiers, et moi le premier. Et nous sommes passés à côté. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, c'est quelque chose qui m'a turlupiné depuis d'ailleurs dimanche, parce que je l'ai évoqué. Au chapitre 5 de Luc, au verset 17, alors je vais vous le lire dans la version Darby. Vous savez qu'il y a plusieurs versions, certaines sont plus pointues, plus précises que d'autres. Et dans la version Darby, vraiment le Seigneur m'a conduit. Regardez bien, donc Jésus arrive, il y a des pharisiens, des docteurs, donc des religieux, des pasteurs, des enseignants, des religieux. Regardez ce qui est écrit dans la version Darby. Il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait. Et des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de chaque bourgade de Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient assis là. Et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Donc, il y avait un rendez-vous. C'est bien un rendez-vous. On a besoin de rendez-vous divin. Dans une église, il doit y avoir un rendez-vous divin. Ou alors, c'est de la religiosité. Et dans ce texte, il est bien stipulé que le Seigneur, il était là pour les guérir. Ces gens qui étaient pas bien, c'était des religieux, ils croyaient qu'ils étaient bien. Parce que quand on a une religion, souvent, on croit qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on connaît la doctrine, on croit qu'on peut s'autoriser à donner des leçons aux autres. En fait, ces pharisiens, on le voit dans la Bible, il y avait une grosse, grosse hypocrisie. Le Seigneur, il était là pour les guérir. C'est bien quand même, non ? Aucun n'a été. Tous ont été sévèrement repris à cause de leur hypocrisie. Parce que parmi ces docteurs, parmi ces pharisiens, certains avaient besoin d'être touchés, eux aussi. Et c'est un pauvre paralytique qui peut-être était plus conscient de son besoin, qui avait vraiment besoin de Jésus, qu'il a vraiment été. À la piscine, je vous dis, il y a cet homme qui l'a été vraiment, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a attendu un an, il a fallu qu'il y ait une grosse percussion avec un prophète pour qu'il se sente coincé et obligé, enfin obligé, on n'est pas obligé, mais qu'il se sente poussé à se remettre d'accord avec Dieu. C'est bien d'être d'accord avec le Seigneur. Ces pharisiens, ils n'ont pas été guéris. Jésus était là pour les bénir. Et ça s'est mal fini, à part pour quelqu'un. Et je voudrais que nous demandions à ce Seigneur qui est là pour nous bénir, parce que le Seigneur, il est encore assis sur le trône de la grâce. Même si tout ce qu'on voit montre la colère qui vient, il n'empêche que le Seigneur est assis sur son trône et qu'il est là pour nous bénir. Pourquoi le Seigneur est là ? Pourquoi le Seigneur est là ? Pourquoi le Seigneur a promis que par son esprit, il serait là lorsque 2, 3 de ses enfants s'assembleraient en son nom et que ceux qui auraient la charge de parler, d'intervenir, honoreraient sa parole, Dieu honorerait sa parole. Donc si on fait les choses comme il faut, Dieu honorera sa parole. Et nous voyons là, dans cette foule qui suit, pareil, c'est une histoire pathétique. Tout le monde est là, tout le monde suit, tout le monde touche Jésus, rien ne se passe, il est là, et c'est ce qui arrive dans bien des fois, on ouvre la Bible, on va à l'église. Est-ce qu'on peut aller à l'église pour rien ? Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible où on voit des gens qui ont été à l'église pour rien ? Vous ne vous rappelez pas Jésus qui donne cette parabole, 2 hommes montèrent au temple pour prier ? Il leur dit ces choses parce qu'il voulait enseigner des choses. Et 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, donc très religieux. L'autre était publicain, donc il était moins religieux. Ils montèrent au temple tous les deux pour prier. Et il y en a un qui fait le malin parce qu'il est religieux. Et moi je fais ci, et moi je fais ça. En plus il commence à se comparer aux autres. Je ne suis pas comme ce pauvre publicain là. Il se compare. Comment il est reparti ? Comment il est reparti à la maison? Est-ce qu'il a été reparti béni, justifié ou non? Non, il est reparti et on le sait, parce que celui qui s'élève, il sera abaissé. Il est venu à l'église, au temple, pour rien. Et plusieurs textes dans les évangiles nous montrent que cette affaire peut se reproduire. On peut aller à l'église pour rien. C'est pour ça d'ailleurs que les gens vont dans les églises, ils ne reçoivent rien. Donc ils disent, oui, l'église, ça ne sert à rien. Et ils ont raison, ils ont raison. Ne critiquons pas trop les gens qui disent certaines choses de vraies. Si les gens recevaient quelque chose dans l'église, laissez-moi vous dire, c'est eux qui publieraient que Dieu est au milieu de nous. Ce n'est pas écrit ça dans les Corinthiens, que ce sont les païens qui publieraient que Dieu est réellement au milieu de nous. C'est bien quand ce sont les païens qui le disent, plutôt que quand c'est les chrétiens qui le disent et que rien ne se passe. Donc nous voyons des textes où les gens ils lisent, ça ne sert à rien. Vous rappelez quand Jésus, on va lire, mais c'est bien de le dire, parce que c'est écrit pour qu'on le comprenne. Regardez dans Jean au chapitre 5, aux pharisiens encore, des pros de la religion. Et en plus un orgueil, ils étaient tombés dans un orgueil pas possible, parce que c'était à l'époque la meilleure religion. Jean chapitre 5, verset 39. Regardez ce qu'ils font. Ils font quelque chose que tous les pasteurs voudraient que les chrétiens fassent et qu'ils doivent faire en plus. Regardez Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Est-ce que c'est bien de sonder les Écritures? Ben, c'est excellent. Si vous le faites, heureux l'homme qui médite. Si vous le faites avec ce cœur, avec ce vrai cœur qui cherche à connaître Dieu. Mais regardez. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Notre réunion, ce soir, a un sens, si, comme nous l'avons entendu dans les chants, nous avons le cœur de nous dire, mais je peux m'approcher de Dieu, je peux m'approcher de Dieu là, tout à l'heure en rentrant chez moi, je peux prendre ma Bible, ou je peux m'enfermer dans ma chambre et prier, et Dieu verra mon cœur, il verra ce cœur, s'il est vraiment disposé ou si c'est du cinéma. Parce qu'on peut faire du cinéma. Mais là, nous avons le témoignage d'une femme donc justement qui va expérimenter cette bénédiction. Vous n'avez pas envie, vous, d'être béni? Est-ce que Dieu voulait bénir que cette femme? Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que dans le royaume, il y a des préférences? Est-ce que Dieu préfère tel ou tel pays? Est-ce que Dieu préfère la France à l'Espagne? Est-ce que Dieu préfère les Français aux Africains? Est-ce que vous croyez que Dieu aime tous les hommes? Et que ce que cette femme a vécu, n'importe qui, ce soir, peut le vivre? Eh bien, si nous reproduisons la même affaire de cœur, Seigneur, je veux un cœur bien disposé. Je ne veux pas juste une espèce de réunion bénie, qui me fera du bien, en plus c'est chouette, c'est climatisé, ça fait du bien. C'est vrai, c'est bien, oui ou non? Bien sûr, le confort pour le corps, c'est une grâce. Mais le confort pour l'âme, c'est encore plus précieux. Alors quand il y a tout, c'est mieux. Mais s'il y a quelqu'un qui peut dire, mais moi je veux être béni, et c'est pas du... C'est sérieux, on a besoin de paix. On a besoin de, quand on a, ça fait 12 ans que cette femme, elle avait dépensé tout son argent, et il y a des gens qui vont chercher à droite, à gauche, et ils ne pensent pas que Jésus-Christ est la vie. Quand il parlait, il disait quelque chose que tous les pasteurs aimeraient, on est jaloux de cette parole, quand Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Quand Jésus parlait, il communiquait la vie, c'est pour ça qu'il bénissait, il guérissait. Et il y en a qui l'ont compris et qui se sont fixés un point d'ancrage en disant, comme cette femme, il faut que je touche le Seigneur. Alors quelqu'un va me dire, mais monsieur, vous touchez le Seigneur, il est au ciel. Vous avez dit qu'il était au ciel. C'est plus possible s'il était à Jérusalem. Moi, j'irai à Jérusalem le chercher dans son bureau. Sérieusement, si Jésus était à Toulouse dimanche, est-ce que vous iriez le voir? Ouais. Moi, je pense que c'est la seule raison pour laquelle je fermerai l'église. Si Jésus était physiquement quelque part, est-ce que vous iriez? Ouais. Oui. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que nous pouvons vivre exactement la même chose par la foi. Et que si Jésus est au ciel sur son trône, il est présent par son esprit, par sa parole. Et quand Jésus a dit aux apôtres qui étaient très frustrés, très, très mécontents de ce que Jésus a dit, je m'en vais au ciel, il leur dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et c'est vrai que si Jésus était resté sur la terre, il serait à un seul endroit. Tandis qu'en étant remonté au ciel, le Saint-Esprit est descendu sur la terre et le Seigneur est partout sur la terre. Ça, vous le croyez pas, je comprends. Mais une chose est sûre, vous pouvez expérimenter sa grâce et dire, mais moi aussi, je veux apprendre à toucher le Seigneur. C'est pour ça que nous vous demandons de lire la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, vous pouvez vraiment toucher le Seigneur. Les gens, ils lisent, ils comparent ça. Il y en a, je sais pas si quelqu'un une fois n'avait pas comparé un livre, les livres de la Bible à Victor Hugo. En disant que Victor Hugo, c'était merveilleux, qu'il l'avait lu 13 fois, qu'il s'en lassait pas. Bon, peut-être qu'à la 14e, il va s'en lasser. Mes frères et sœurs, vous n'allez pas comparer le livre de nos poètes français avec la parole qui sort du cœur de Dieu, qui procure la vie, qui peut vous guérir. Vous croyez que ce soir, vous pouvez rentrer dans votre maison, ou même tout à l'heure, en disant, mais moi je crois, Seigneur, que tu veux me guérir ce soir. J'ai besoin de guérison, je ne perds pas du sang, mais j'ai perdu la tête. Ou je perds la raison, ou je perds courage. Et on peut en perdre des choses. Vous le savez qu'on peut en perdre ? D'autant plus que le diable est un voleur, en plus on peut en perdre et en plus il peut nous le voler. J'ai beaucoup perdu ces années passées. Je suis dans l'église depuis un an. J'ai rien reçu. Seigneur, il le sait. Il le voit quand David faisait la comédie pendant un an. On se dit quand même, David, t'as fait la comédie, toi ? Toi ? Vous voyez qu'il y en a d'autres, tu te dis, bon, ça... On le sait, c'est comédien. Mais David, quand il a fait le fou chez le roi Siclan, vous savez, qui bavait contre la porte pour passer pour un fou. David, mais quand il a entendu la vérité, il a supplié Dieu et Dieu l'a exaucé. Là, ça a duré qu'un an. Cette pauvre femme, ça a duré 12 ans. L'autre gars dont on a parlé tout à l'heure, ça a duré 38 ans. Là, c'était dû en plus à son péché, parce que quand Jésus va le retrouver dans le temple, Jésus va lui dire, ne pêche pas, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. De pire qu'être paralysé 38 ans. Mais oui, aller en enfer, c'est pire. Aller en enfer, c'est pire que d'être paralysé toute sa vie sur la terre. Et si le Seigneur a une parole à nous dire, Seigneur, donne-moi-la. Donne-moi-la cette parole, je vais me tenir devant toi. Vous savez, on peut parfois lire un livre, une heure, et puis tout d'un coup, il y a une parole de Dieu qui va s'adresser à votre cœur. Oui ou non? Et cette femme, elle s'est fixée un objectif. Il faut que je touche le bord de son vêtement. Le bord de son vêtement, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage spirituel? Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Que dès que vous touchez Jésus-Christ, vous avez affaire à la perfection de Dieu. Il y a la guérison, il y a le salut. Vous croyez qu'un homme qui touche le Seigneur peut être instantanément sauvé ? Que quelqu'un ce soir peut rentrer dans l'église et être instantanément sauvé ? Je me souviens de cette femme qui vivait avec un jeune, avec un gars. Je vous raconte l'histoire, c'est un fils d'une chrétienne. Il est parti faire du ski, ça s'est passé il y a 12 ans, ici. Il est parti faire du ski et en partant faire du ski, oui, il a eu un accident. Il a eu un accident grave. Il a été coincé dans la voiture. Les sapeurs-pompiers l'ont dit, c'est impossible que cet homme y soit vivant. Et il n'avait rien. Et comme il avait plié sa voiture, le week-end après, il est reparti faire du ski. Il arrive en haut de... Il avait écouté une prédication sur l'enlèvement de l'église. Est-ce que tu es prêt ? Une prédication d'ici. Il arrive en haut de la montagne, sur sa piste, je ne sais pas, très foncée, là. Et avec son skate, avec son, comment ça s'appelle, avec son snowboard. Et en haut de la piste, il a dit, si je me tue, je vais en enfer. Il est redescendu à pied avec son snowboard. Et il est rentré et il a dit à sa copine, avec qui il vivait, il faut que j'aille demain à l'église. Elle a dit, mais tu es fou. Non, il faut que j'aille faire la paix avec Dieu. Et bien, il a dit, je t'accompagne. Et ils sont venus tous les deux. Lui, mais déjà dans son cœur, il avait beaucoup avancé. Il avait déjà donné son cœur au Seigneur. Il avait compris qu'il fallait qu'il cède. Il avait 30 ans ou 35 ans. Et donc elle est rentrée. Et c'est elle qui me l'a dit après. Elle est rentrée furieuse. Elle me dit, je suis rentrée le poing levé contre Dieu. Elle est rentrée ce matin-là, je me souviens, c'était Brice qui faisait chanter, il avait chanté que des cantiques sur la croix. Moi je ne savais pas ce qui se passait. C'est elle qui est venue me voir 8 jours après. Écoutez-moi, mot pour mot, elle m'a dit, Monsieur Gault, je suis rentré dans l'église, le poing levé contre Dieu. Un quart d'heure après, j'avais obtenu le pardon de mes péchés. Il n'y avait même pas eu la prédication, il y avait eu 3 ou 4 chants. Et moi je crois à cet évangile où instantanément, un homme peut obtenir le pardon des péchés. Il n'y avait même pas eu la prédication. Moi, j'étais content. Je me suis dit, elle va me dire, oui, pendant que vous avez prêché, j'ai donné mon corps au Seigneur. Non, pendant les chants, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai obtenu le pardon de mes péchés. Moi, je bénis soit le Seigneur. Ce que Dieu a fait pour Christelle, qui est là, membre de notre Église, il l'a fait pour cette femme il y a 2000 ans. Ce soir, vous pouvez dire, Seigneur, il faut que tu renouvelles un esprit bien disposé. Je ne peux plus me permettre de continuer à perdre. Je vais courir à droite, courir à gauche, je m'imagine. Non, la bénédiction et la victoire, c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est par le calvaire. C'est Jésus qui donne la vie. Vous avez tout pleinement en lui, dont je peux moi aussi, tous, par la foi. Et, ah, mais moi, j'ai pas la foi. Je me le dis souvent. J'ai pas la foi. Écoutez-moi, la foi que Dieu vous demande d'avoir, vous l'avez. Écoutez-moi bien. N'écoutez pas le diable qui vous fait croire que vous n'avez pas la foi. Là, je le répète, la foi que Dieu vous demande d'avoir, il vous l'a donnée. Est-ce que c'est écrit dans Romains 12 qu'il a donné à tous les hommes une mesure de foi? Donc ne vous laissez pas embarquer loin de Jésus, approchez-vous de lui, Seigneur, j'ai la foi. La foi, c'est la foi en Dieu. C'est pas la foi qui sauve. C'est la foi dans le sang de Jésus-Christ. C'est la foi en Christ. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, ils disent j'ai la foi, mais ils ne croient rien de ce que Dieu dit. La foi dans ce que Dieu a dit. Oui, vous pouvez toucher le bord. Et Jésus, qui était certainement amené à aller prêcher ailleurs, il s'est arrêté. Et oui, il peut s'arrêter pour moi. Moi qui ne me suis pas occupé de lui, j'ai une trentaine d'années. Ça fait jamais tombe, parce qu'il y a plein de jeunes. J'ai 35 ans, je ne me suis jamais occupé de Dieu. Et il peut s'arrêter dans ma vie comme ça, comme il a fait, le Seigneur des Seigneurs. Eh bien oui, que son nom soit béni. Il peut s'arrêter, même ça fait 20 fois qu'il m'invite, ça fait 30 fois, 20 fois que je refuse, ça fait 50 fois qu'il m'invite, ça fait 51 fois que je refuse. Il peut s'arrêter quand même, il me pardonnera. Tant qu'il est assis sur le trône de la grâce, il peut le faire. Il veut le faire. À nous de dire, mais Seigneur, il faut que tu me touches. J'ai déjà marché avec toi, mais rien n'a changé. Je t'ai donné mon cœur, mais j'avais un sale caractère avant ma conversion. J'ai toujours gardé ce sale caractère. Est-ce que Dieu peut changer notre caractère? Est-ce que Dieu peut nous attendrir? Pourquoi il est là le Seigneur, sinon pour bénir ce soir? Seigneur, guéris-moi. Peut-être que ça demandera un peu de temps, dans le sens de dire, mais Seigneur, tu as peut-être des choses à me montrer. Parce que je crois, moi, l'évangile instantané qui guérit et qui sauve instantanément, mais je crois qu'il y a des choses que le Seigneur veut me montrer. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie, qu'il écoute ce que Dieu a à lui dire. Je termine avec cette pensée. Dans un autre évangile, il est dit qu'il y avait une foule de gens. Et croyez-moi, écoutez-moi bien. Même le plus sérieux parmi vous, écoutez, il y aura toujours une foule de choses pour nous séparer du Seigneur. Dans ce monde, aujourd'hui, où on a presque tout à portée de main, en plus, tout est fait pour que cette foule s'épaississe et nous empêche de nous retrouver au pied du Seigneur pour le toucher. Il n'y en a pas des loisirs? Combien de gens sont incapables de faire un pas vers Dieu parce qu'ils sont instantanément bloqués dans leur démarche? Ils sont incapables, tellement ils sont liés par le diable, par les choses du monde, par des péchés, par des plaisirs. Est-ce que Jésus parle des plaisirs de la vie qui peuvent étouffer la parole? Mes frères et sœurs, on devrait être déterminés. David a été béni parce qu'il a été déterminé. Il a dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. On n'a pas lu toute la prière, mais en vérité, la prière commence par cette affaire. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. La vérité, vous voulez l'entendre vraiment? Eh bien, arrêtez de vous enivrer de choses qui vous empêchent de vous approcher de Dieu. Que de loisirs, que de choses. En plus, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont le téléphone, ils ont la tablette, ils ont l'ordi, tout est allumé, la télé en même temps. Ils chattent, ils te conversent, ils envoient des mails. Oh, j'ai pas le temps. Quelqu'un me dit, moi je fais tout en même temps, j'ai plusieurs ordi. Mais je sais pas, pour le travail, c'est peut-être bien. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut peut-être tout éteindre. Tout éteindre. Tout. Et dire, Seigneur, c'est entre toi et moi. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Si le témoignage, comment il est dit, des hommes est grand, le témoignage de Dieu est encore plus grand. Si Dieu l'a dit, il le fait. Et si vous n'êtes pas béni, c'est parce qu'il y a une foule de choses qui vous empêchent de vous approcher de lui. Et je le sais, parce que c'est des gens qui me l'ont dit. On n'est pas au bout de la rue que déjà, on est là en train d'écouter nostalgie. Et mes frères et sœurs, je crois que c'est bien la nostalgie, mais je ne sais pas si c'est bien pour la guérison. Les gens, ils sont tout le temps dans le passé, en train de vivre dans le passé. Moi, je crois qu'il faut se projeter dans l'avenir. Et si quelque chose me fait du mal, je dois demander à Dieu de m'en délivrer. Cette femme, elle était fatiguée. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais Dieu vous aidera à vous approcher de lui. Elle aurait pu ne pas y arriver, humainement parlant. Peut-être qu'il y avait 500 mètres. Peut-être qu'elle s'est dit, mais j'arriverai jamais. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Vous avez vu Daniel, quand on l'a amené à Babylone, qu'on lui a imposé un autre nom, qu'on lui a imposé la nourriture, il a décidé de ne pas se souiller avec la nourriture du roi qui était offerte à des idoles. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine qu'ils disent non, je ne me souillerai pas? Mes frères et sœurs, il y a bien des choses que le roi de ce monde nous impose qui nous souillent. Et on devrait quand même avoir cette délicatesse de dire non, parce que sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et ça, c'est un choix. C'est un choix. Je suis déterminé. Je n'accepterai pas que... Moi, je me souviens... Ben, écoutez, je ne vous dis pas qui c'est, mais il y a un frère ici qui est rentré dans le ministère pastoral. Et au bout de plusieurs années, il a été contraint. Il l'a fait par conviction. C'est pour moi qu'il le lui a dit. Parce que nous, on est des pasteurs. On conseille. On n'ordonne rien du tout. Il savait que la télévision était devenue un obstacle à la bénédiction. Parce qu'il entrait à la maison, il met à la télé, il était, jusqu'à minuit, et puis après il n'avait pas le temps de faire son culte, il se levait le matin à la bourre parce qu'il était fatigué, et un jour il a pris sa télé, il l'a jetée dans un conteneur. Un an après, il était ici, dans le ministère pastoral, conduit par le Saint-Esprit, vraiment. C'était un obstacle, je ne dis pas que tout est un obstacle, mais on devrait savoir ce qui est un obstacle à la bénédiction. Oui ou non? Et cette femme, elle a persévéré. Elle a fait sa part. Elle a fait sa petite part, ou sa grande part. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle pouvait faire que ça. S'approcher de Jésus. C'est pareil pour vous. Ne dites pas comment ça va se passer, comment il va me bénir, comment je vais trouver un travail, comment je vais trouver un mari, comment je vais trouver une maison, je ne sais pas, tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui bénit. Si vous étiez là mardi dernier, on a partagé ce texte. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est Dieu qui bénit. Toute grâce, tout don vient d'en haut. Ne dites pas, ouais, il m'empêche, c'est la faute à lui, c'est la faute à ma mère, c'est la faute au pasteur, c'est la faute aux anciens, si je ne suis pas béni, écoutez-moi, c'est Dieu qui bénit. Faites votre petite part. Apprends-moi, Seigneur, à m'approcher de toi, pas des trucs superficiels. Seigneur, bénis-moi, je n'ai pas le temps. Bénis-moi vite parce que je n'ai pas le temps. Non, mais le Seigneur, ce n'est pas une cafetière. Hein? Instantané, là. Hein? Ce n'est pas un distributeur de chewing-gum. Mes frères et sœurs, soyez sérieux. dire à Dieu, fais vite parce que j'ai pas le temps, je crois, mes frères et sœurs, que ça va pas vous aider, ça. Seigneur, je m'approcherai de toi. Je m'approcherai de ce trône de la grâce où il y a la vie, la guérison, la paix. Vous croyez pas qu'aujourd'hui c'est beau d'avoir la paix dans ce monde complètement désemparé, de pouvoir dire j'ai la paix. Je suis. Si vous êtes avec Dieu, écoutez, si vous êtes avec Dieu, vous ne pouvez pas ne pas avoir la paix. C'est comme quand vous êtes avec quelqu'un d'énervé, à bout d'un moment. Vous avez déjà vécu avec des gens conflictuels, énervés? Vous avez vu au bout d'un moment comment ça fait du bien? Si vous marchez avec Dieu, vous ne pouvez pas ne pas avoir la paix. Parce qu'il est le Dieu de la paix. Il est le Dieu de la consolation. Il est le Dieu de la restauration, de la guérison. Je me souviens de ce frère qui était venu à Groyer, il avait 44 ans, je me rappelle, il avait passé des moments difficiles, dans tous les domaines. Il est venu à l'église, et je le voyais changer. Et au bout de 6 mois, il est venu, il me dit, Monsieur Gault, quand je suis arrivé à l'église, il était là avec ses mains, comme ça, je me rappelle. Il voyait mon cœur, il était plein de petits morceaux, là, dans mes mains. Et aujourd'hui, Dieu l'a guéri. Et pourtant, il avait 44 ans, il avait déjà de la bouteille, comme on dit. Mais il avait été au bénéfice de la grâce de Dieu. Tout simplement, pendant 6 mois, il venait le dimanche et le jeudi à la réunion, et Dieu l'a guéri. Et oui, il avait touché le Seigneur. Alors si le Seigneur ne vous a pas touché depuis longtemps, ou si vous n'avez pas touché le Seigneur, il y a une raison. Repentez-vous. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir été léger. Pardonne-moi d'avoir été superficiel. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous et il vous aidera. Alors soyez sérieux quand vous ouvrez le Saint-Livre. Ne dites pas vite, vite, j'ai besoin d'un texte, vite, vite, tiens. Non. Ça, c'est pas la peine. Cette femme, elle est allée toute tremblante. Gloire à Dieu. Moi, j'aime cette histoire. Le Seigneur s'est arrêté. Vous voulez pas qu'il s'arrête dans votre maison? Vous voulez pas qu'il s'arrête ce soir? Demain matin, quand vous ferez votre culte d'IND, mais plutôt que de rester devant Facebook jusqu'à 1 heure, je vais me coucher à 11 heures et demain matin, faites-le. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est sûr que vous avez du mal à le croire, mais vous vérifiez-le. Ce n'est pas Jacques qui dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait se recueillir vraiment sous son regard, sous son saint regard? Oui. Cette expérience, elle est réelle. Le témoignage de Dieu est grand. Il est plus grand que le témoignage des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, Seigneur, moi aussi je vais vivre. Et je prendrai le temps de remonter la foule. Il y a cette affaire. Oui, tiens, il y a mon ordi, ma télé, mes amis, fais bien attention que ce soit des vrais amis. Et pas des gens qui vont t'amener dans la perversité. Mon travail. Je vais, Seigneur, demander ton aide. Cette femme, elle connaissait certainement, elle devait prier dans son cœur, oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, aide-moi. Demandez-lui. Demandez-lui qu'il vous éclaire. Vous savez, je le répète, toute grâce vient d'en haut. Ne dites pas oui, si, oui, là, tout ça, ça sert à rien. Renouvelle à moi un esprit bien disposé, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as rassemblés sous ton regard. Ce que tu étais lorsque tu traversais ces villages, tu l'es aujourd'hui dans toute ta puissance. Tu es assis sur ton trône et tu regardes tous les habitants de la terre. Et tu vois celui qui, comme cette femme, te recherche ardemment, déterminé à se retrouver collé à tes pieds. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Même si, hélas, nous nous rendons compte que beaucoup d'hommes que tu voulais guérir ne l'ont pas été.
même si ce jour-là, à la piscine de Bethesda, tu n'as guéri qu'un homme, alors que nous savons que tu voulais les guérir tous. Tu sais ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui chercheront la guérison. Alors Seigneur, merci pour ta souveraineté. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.